salut en espérance, je recherche le passage. Verset 24, car nous avons été sauvés en espérance. Or, une espérance qu'on voit n'est pas une espérance. Car ce que quelqu'un voit, pourquoi l'espère-t-il? Mais si ce que nous ne voyons pas, nous l'espérons, nous l'attendons avec patience. Et je dirais même avec envie. Jacques a parlé de l'envie de tout ce qui est là devant nous, qui vient de Dieu et qui est par notre relation avec le Seigneur. Et je crois que on dit qu'il y a le mot espérance dans notre français courant, c'est attendre, oui, avec envie, quelque chose qui peut-être qu'on n'aura jamais, mais c'est vrai que dans le Nouveau Testament, le mot espérance, pour nous, c'est quelque chose qu'on aura, c'est clair. C'est parce que c'est Dieu qui nous le propose, et Dieu ne peut mentir. Nous avons la vie, on a lu ce verset dans 2 Corinthiens 1, très important de ce lien avec Dieu en Christ, où l'Esprit est le sceau et les arts. Et vraiment, il faut avoir envie de ces choses qui sont pour nous, qui sont liées à la gloire de Christ, qui sont liées à cette éternité dans la présence de Dieu, liée l'Église unie à Christ comme son épouse. Juste deux versets, le verset de Romains 15, verset 13, et puis le verset d'Hébreux 6. Hébreux 15, verset 13. Or, le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et paix en croyant, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Donc, c'est Dieu qui est le Dieu d'espérance, qui va travailler en nous pour que ces choses à venir soient du domaine de la foi, soit nous y croyons, et qu'elles mettent la paix et la joie dans notre cœur, et que toute notre vie en soit remplie en quelque sorte. Vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Moi, je lis que c'est l'action de l'Esprit dans ma vie qui va me faire vivre en fonction de cette espérance. Et puis, Hébreux 6, verset 19, « L'espérance proposée, laquelle nous avons comme une encre de l'âme sûre et ferme, et qui entre jusqu'au dedans du voile, où Jésus est entré comme précurseur pour nous, étant devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisedec. Espérance proposée, mais espérance certaine, et c'est notre âme qui jette comme une encre sur ces choses pour que nous soyons arrimés dans ce que Christ est et sera pour nous et dans les réalités de la vie éternelle, y compris le salut du corps.
Que l'espérance concerne des choses futures. C'est bien ici quelque chose que nous n'avons pas. Mais cette espérance est vivante, comme cela est dit ailleurs, et c'est aussi une consolation, comme nous le voyons dans 2 Thessaloniciens. Nous avons une consolation éternelle, une bonne espérance par grâce, que Dieu veuille consoler vos cœurs. C'était un sujet de consolation que nous pouvons présenter pour tous ceux qui ont besoin de l'être, cette espérance qui est vivante. Et qui, vous savez, dans le monde on dit l'espoir fait vivre, mais c'est bien un peu vrai. Nous avons une espérance qui nous empêche de gémir toujours. Et puis c'est une histoire de foi aussi. Bon, l'espérance et la foi vont ensemble. C'est dans la mesure où nous sommes remplis d'assurance et de paix et de foi, et bien la consolation, nous la trouvons dans cette espérance.
11.1, la foi et l'assurance des choses qu'on espère. Quand tu cites le passage d'Hébreux 6, nous avons comme une encre de l'âme sûre et ferme. C'est un terme nautique. Quand un bateau arrivait dans un port, l'ancre du bateau était mise sur un petit bateau devant qui rentrait dans le port et que l'on mettait dans le port, de telle sorte que, en remontant la corde, eh bien, tu allais jusqu'à l'ancre et tu rentrais dans le port. Et Jésus est dans le ciel, comme notre ancre, comme ce bateau qui rentrait. Et nous sommes là, nous allons arriver parce que, eh bien, nous sommes liés à lui. Et on va y aller. Alors l'espérance, ce n'est pas un vague espoir, c'est une certitude. Et l'espérance est vivante parce que c'est une personne, Jésus-Christ, notre espérance. Et quand nous, notre relation avec le Seigneur est de plus en plus réelle, il est notre espérance. Et dans ce sens-là, c'est quelque chose qui est vivant, ce n'est pas un vague, quelque chose de vague et... je ne sais pas, mais en fait, peut-être qu'on a des projets pour les vacances, alors on espère l'avoir, mais on n'est jamais sûr de l'avoir. Par contre, aller dans le ciel, dans nos projets, ça, c'est sûr.
Je cite juste une expression de Colossiens 1, à la fin du verset 27, « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». C'est tout à fait lié à notre chapitre, hein, la révélation de la gloire des enfants de Dieu, voilà. Je suis sauvé, Christ est là, les personnes divines sont là, Jean 14 est clair, hein, et par conséquent, Christ est en moi, l'espérance de la gloire. Tout ce que Dieu veut atteindre à l'égard de cela, il nous dit par Paul aux Corinthiens, en Christ est le oui et en lui est l'amen. Il est là en moi, voilà, j'ai déjà ces choses. J'en attends l'entrée complète, mais j'ai déjà ces choses.
Peut-être que on peut imaginer un exemple dans l'Ancien Testament, un petit peu. Vous vous souvenez, le peuple d'Israël, il démarre son voyage, et puis c'est comment là-bas ? C'est un pays ruisselant de lait et de miel. Mais c'est comment là-bas? Alors on envoie des espions, et puis on ramène. Alors il y a des grenades, il y a cette grappe extraordinaire. C'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. On l'a vu. C'est vraiment on. Et c'est là qu'on va. Alors bien sûr, on croit ou on ne croit pas. C'est pour ça que dans la vie chrétienne, le fait de s'emparer des réalités. Nous savons, il y a marqué ici, hein, deux fois, trois fois, une fois, deux fois, une fois. Nous savons et nous ne savons pas, mais ça on verra tout à l'heure. Nous savons. Et alors, la question c'est que, effectivement, pour le peuple, et en particulier pour Josué et Caleb, pendant 38 ans, ils ont chaque matin, ouais, le pays où nous allons, il y a tout ça. Et nous l'avons vu, nous le croyons. Et pendant ce temps-là, 44 personnes meurent autour d'eux chaque jour. C'est ça à peu près, hein, je vous fais le calcul, le nombre de personnes, d'hommes en tout cas, et par 40 ou 38. Alors, vous voyez donc que dans un environnement qui se décline de souffrance, de mort, c'est vrai. Mais alors, nous, c'est la foi, on ne peut pas faire autrement. C'est la foi qui s'empare d'une réalité que Dieu nous affirme. Mais la différence, c'est que pour le peuple d'Israël, c'est un futur, puisque les images sont les unes après les autres. Or, même si, ce que Jacques disait, la réalité des choses complètes, c'est pour le futur, n'empêche, et peut-être qu'on se répète encore, ça fait rien, mais ce qui se passe dans le pays promis, c'est l'héritage, en quelque sorte. On a parlé des arts de l'héritage. L'héritage, c'est évidemment, ça sera dans 38 ans. Mais ce pays promis, ce bien de Dieu qu'il offre au peuple, aujourd'hui, Dieu nous donne des biens, mais pas pour plus tard. C'est la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. C'est-à-dire que mon esprit renouvelé entre dans ce domaine où j'ai une relation personnelle avec Jésus-Christ ressuscité, glorifié, vivant. Et là, vraiment, je peux, alors on met comme si on mettait la Palestine vraiment au moment où il reçoit les espions arrivent. C'est-à-dire que dans la réalité d'aujourd'hui, Dieu ne nous dit pas c'est plus tard. Non, mais dès aujourd'hui, tu peux jouir du fait que t'es mon fils. C'est ça. Mais cette communion que nous avons dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre intimité avec le Seigneur vivant, c'est ça la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. C'est ce que nous vivons chaque jour, quelles que soient les circonstances que nous vivons. Mais il y a un moment donné où on a vu, on ne l'a pas vu, mais c'est juste avant ce qu'on a lu. On a lu que les enfants de Dieu, nous sommes enfants, héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Et Paul, dans Timothée, chapitre 2, nous apprend que si nous souffrons, nous régnerons avec lui. Autrement dit, le fait, et ce qu'on disait tout à l'heure, que les enfants de Dieu aujourd'hui, soit on ne les voit pas, soit ils sont méprisés, pas étonnant, le Seigneur Jésus, soit on ne l'a pas vu, reconnu, soit on l'a méprisé. Eh bien, quand le Seigneur Jésus sera manifesté, c'est-à-dire il pourra réellement préparer la venue pour régner donc le millénium, nous apprenons que ceux qui ont été ses serviteurs, méprisés, oubliés, rejetés, seront glorifiés et vont régner avec lui. On règnera avec lui et le monde va voir et admirer ceux qui l'accompagnent, tous ces fils de Dieu qui accompagnent le roi. Nous serons des rois. Lui, le roi des rois, nous des rois. Alors c'est aussi ça que ça veut dire, nous attendons l'adoption. Mais n'oublions pas que nous avons déjà tant de choses qui nous sont suffisantes pour être des gens libérés, qui peuvent profiter de tous les biens de Dieu. Alors voilà, nous allons régner bientôt. Il est dit dans Corinthiens, nous allons juger le monde. Hein? Nous allons gouverner le monde en tant que jugement et en tant que règne, tout ce que vous voulez. Hein? Et bien voilà, ça c'est quelque chose que nous trouvons ici. Nous attendons l'adoption. Mais nous savons, nous avons lu ça. On a aussi cette même pensée, un peu différente quand même, mais dans la première épître de Jean au chapitre 3, quand il est dit, maintenant nous sommes enfants de Dieu, oui. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, chapitre 3, verset 2. Et nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Cette pensée-là, non seulement c'est une espérance qui encourage, et ça c'est le but, encourager mais aussi ça purifie. Pourquoi ça purifie ? Parce que l'occupation de mon âme avec ces richesses que nous avons en Christ et notre avenir fait que le reste a moins de valeur et on est moins intéressé par ce qui pourrait nous tenter. Vous voyez ? Comme quoi c'est aussi important de nous souvenir que voilà, nous savons.
Au sujet de l'espérance, il me semble qu'il y a une image intéressante pour nos jeunes, c'est le brevet des collèges. Alors, je ne sais pas comment ça se passe actuellement, mais il y a en tout cas quelques années, quand mes enfants étaient au collège, ce qui s'appelait autrefois le BEPC n'était plus obtenu seulement par l'examen qu'on passait, mais dans les classes précédentes, en quatrième, en troisième, on pouvait accumuler des points tout au long de l'année et éventuellement avoir suffisamment de points pour être sûr d'obtenir le brevet des collèges. Donc, un enfant qui est dans ce cas-là, qui est au deuxième trimestre, sa troisième, il sait qu'il a eu suffisamment de bonnes notes, il n'a pas encore son brevet des collèges, il faudra qu'il attende l'année scolaire pour l'avoir. Mais il sait qu'il aura les points pour l'avoir à la fin. Je crois que c'est une bonne image de ce qui nous fait comprendre de ce qu'est l'espérance ici. Il ne l'a pas encore, mais il est sûr qu'il l'aura. Et c'est certainement le sens de ce verset 25. Donc cet enfant qui a suffisamment de points pour avoir son brevet des collèges, il l'espère parce qu'il ne l'a pas encore et il l'attend avec patience parce qu'il est sûr que ça va venir. Et là, c'est ce verset 25. Nous ne voyons pas, nous l'espérons, nous l'attendons avec patience. Mais même si cet enfant, il est sûr d'avoir son brevet des collèges, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas encore des interrogations écrites et des moments peut-être un peu difficiles et angoissants. Alors en attendant, il y a quelque chose. Et pour le chrétien, c'est le de même du verset 26. Parce qu'il y a deux choses qui nous permettent d'attendre et de surmonter la pénibilité de la situation actuelle. Il y a cette espérance, cette certitude qu'on attend avec patience, et puis il y a le Saint-Esprit. Et je trouve que c'est beau comme ces versets sont écrits, parce que on a lu dans la première conséquence du péché, on a dit « la création est une conséquence du péché, les épines ». On a lu au verset 22 qu'elle soupire. On a dit que le péché, il avait aussi des effets chez nous, en nous-mêmes, dans notre cœur, dans nos esprits. On n'arrive pas à tout maîtriser. On voit bien que le péché a des emprises sur nous. Et nous aussi, on soupire. On l'a lu au verset 23. Et puis on voit que on n'est pas tout seul à soupirer. Il y a aussi une personne divine, le Saint-Esprit lui-même, qui est là, qui nous aide, et qui soupire à la fin du verset 26. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et donc, tous ensemble, on aspire à ces choses-là. Et cet Esprit qui nous comprend, qui sait de quoi nous sommes faits, qui connaît les limites, qui sait que nous sommes tous faits de terre comme tous les pots de fleurs, comme le travail du potier, tous avec les mêmes limites. Bon, il y en a qui vont être plus intellectuels que d'autres, mais ça fait rien. À côté de la dimension de Dieu, on a toutes des limites très vite atteintes. Eh bien, cet Esprit, il nous aide. Il nous aide. Nous, des fois, on est perplexes, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut demander pour se sortir de la situation. Eh bien, cet Esprit nous aide. Il nous aide à demander. Nous ne savons pas, au verset 26, ce qu'il faut demander comme il convient. Mais voilà, lui, il est là. Il est là. Et puis celui qui sonde tous les cœurs, il connaît aussi cette pensée de l'Esprit. Et puis, à la fin, ça débouche sur quoi? Ça débouche sur ce verset 28, puisque cet Esprit-là, il sait exactement ce dont on a besoin, et puisqu'il intercède pour nous, et puisqu'il soupire aussi, eh bien, on peut dire que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos.
Dans notre condition humaine, on est impatient, on voudrait avoir tout tout de suite. Et là, Dieu exerce notre patience parce que on a donc cette espérance sûre de l'âme, avec toutes les bénédictions en Christ. Et Dieu nous demande de la patience. Nous sommes des êtres finis, Dieu est infini. Nous sommes des êtres qui sont entrés dans le temps, Dieu est hors du temps. Et cette patience, elle est à l'image de la patience de Dieu envers tous les hommes. Dieu est patient envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, que tous viennent à la repentance. Eh bien, cette patience, Dieu l'exerce envers nous pour nous transformer à la ressemblance du Seigneur Jésus. Et cette patience, elle est donc envers tous les hommes. Et nous, nous devons aussi entrer dans le plan de Dieu pour répondre à ce qu'attend le Seigneur Jésus de nous. Vous serez mes témoins, à commencer par Jérusalem et jusqu'au bout de la terre, et entrer dans cette patience de Dieu pour prêcher l'Évangile.
Expliquer pourquoi l'Esprit soupire. Nous voyons le soupir de la création, nous-mêmes nous soupirons, et troisièmement, l'Esprit soupire. Et comment expliquer ces soupirs de l'Esprit? Est-ce que c'est peut-être le désir de l'Esprit du retour du Seigneur, puisque l'Esprit l'épouse, disent, vient. Voilà, si vous avez une pensée, on pourrait la présenter. Pourquoi l'Esprit soupire?
Mais parce qu'il intercède aussi pour nous. C'est ce qu'on a. Je ne sais pas exprimer, mais je souffre et je me place devant Dieu. Et l'Esprit de Dieu en moi présente celui qui sonde les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède pour les saints selon Dieu. Et je sais, par ce passage, que l'Esprit de Dieu va intercéder pour moi à ce sujet-là. Alors, je n'ai pas d'autre explication, mais c'est un fait. Et cela doit nous rassurer, cela doit nous donner vraiment de la confiance, parce que il intercède ainsi pour nous. C'est l'Esprit de Dieu qui fait cela. Et l'Esprit de Dieu, il est en toi.
Je trouve volontiers dans cette expression, peut-être en tout cas, deux encouragements. Le premier, c'est que il y a des choses que nous endurons, des choses qui pèsent sur nous, qui nous écrasent ou nous étreignent et que nous ne savons pas circonscrire. Par conséquent, nous n'arrivons pas à les exprimer, mais elles sont là. Bien, quelqu'un est en nous, l'Esprit de Dieu, il le voit, nous ne savons pas l'exprimer, mais lui le traduit, et Dieu, source de tout, là pour répondre, pour entendre et pour répondre, sait quelle est la pensée de l'Esprit qui est là en moi, qui connaît mon problème, et si moi je ne suis pas capable d'en faire le tour, lui est au fond de mon problème, c'est Dieu qui sonde toutes choses, qui est là et qui entre au fond de mon problème. Premier encouragement. Deuxième encouragement, dans ces soupirs inexprimables de l'esprit, il y a une puissance d'intercession, un appel fort qui correspond à un besoin que nous ne sommes pas capables de décrire. Alors, moi je suis libéré. Il y a ici une intensité de demande et une intelligence de communication qui pourvoit à tout. Puis peut-être, si vous voulez, un troisième encouragement lié à ces deux-là. Quand on ne sait pas exprimer quelque chose, on peut simplement, devant Dieu, véritablement soupirer en nous-mêmes. Et l'Esprit se saisit de ces soupirs et les transmet d'une manière inexprimable pour nous, mais avec une puissance et un appel à la réponse qui fait que le bras de Dieu va se mettre en action pour produire au meilleur moment et de la meilleure manière ce qui va répondre à ce besoin-là.
Que nous avons une grande bénédiction parce que nous avons un consolateur et en haut dans le ciel et un autre consolateur sur la terre et nous avons deux intercesseurs, l'intercesseur ici-bas en nous, c'est l'Esprit. Intercesseur au ciel, c'est Christ qui est toujours vivant pour intercéder pour les siens. Voilà, ce sont des choses qui s'ajoutent, qui ne font pas double emploi. Et la parole nous en parle. Nous avons deux personnes divines, une dans le ciel, une en nous, qui pensent à nous avec. Pour le bien, pour nous bénir. Il ne veut que le bien des enfants de Dieu. C'est quelle joie et quelle paix qu'on devrait ressentir si nous étions conscients de ces intercessions intelligentes de l'Esprit et qui traduit nos prières. Peut-être même que nous ressentons mal nos besoins et alors nous les exprimons maladroitement. Il est question d'infirmité, mais plutôt de faiblesse. Là. Et l'Esprit, à notre secours, dans les prières, prier par l'Esprit. C'est dit dans 1 Corinthiens 14, je chanterai par l'Esprit, je chanterai par l'intelligence, je prierai par l'Esprit. Et puis, il dit aussi que nous rendons culte par l'Esprit dans Philippiens, mais c'est une autre question.
Il y a une autre chose encore dans ce verset 26, une invitation, c'est que je ne dois pas oublier que l'Esprit m'est en aide, c'est sur le plan individuel comme sur le plan collectif, hein, dans ma faiblesse, ou nous est en aide dans notre faiblesse. On pourrait peut-être l'oublier. On se débat dans ses difficultés, ou alors on se sent extrêmement faible, surmonté partout, et puis on sombre dans, en tournant, sans en avoir toujours conscience, autour de soi-même et de ses problèmes. La personne dont je parlais tout à l'heure est une personne pleine de difficultés, incapable de rien faire. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas manger. Je suis obligé d'aller, excusez-moi, ça va faire rire les jeunes, mais en même temps ça vous aidera, hein. Il faut que j'aille faire pipi toutes les 5 minutes. Nous sommes restés pendant 3 heures, il n'y est pas allé une fois. Et je lui ai dit, est-ce que vous vous rendez compte quand même que quand on parle des choses qui vous intéressent vraiment, vos difficultés disparaissent. Alors, n'oublions pas la présence de l'esprit en nous pour nous aider dans notre faiblesse. Et si nous sentons un poids trop lourd ou que nous sombrons avec une incapacité d'engagement personnel, eh bien, pensons à l'esprit et disons simplement au Seigneur, Seigneur, aide-moi.
Comme n'y a-t-il pas une pensée de sympathie? Sympathie, bien dans le sens étymologique, c'est-à-dire souffrir avec. Quand on soupire, d'habitude, c'est que c'est quand même difficile, hein, et qu'on ne sait peut-être pas comment s'en sortir nous-mêmes. Alors si l'esprit soupire, je vois un parallélisme avec le Seigneur. Qu'en descendant de la montagne, il est confronté après la transfiguration, il est confronté à l'incapacité des disciples pour soigner un enfant malade. Et il dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Il n'y a pas le mot soupir, mais c'est comme un soupir. Frères et sœurs, quand nous sentons notre incapacité, que ce soit Christ, que ce soit l'Esprit, ressent l'incapacité, le côté anormal de la situation dans cette création soumise au péché, et il est là en sympathie avec nous, et comme Christ vis-à-vis du malade en descendant de la montagne a réglé le problème par son intervention, Dieu est là pour nous être en aide d'une façon positive. Il a sympathisé, il agit pour notre bien. Et c'est un accord avec la suite du passage.
Nous n'avons pas à être culpabilisés parce que nous sommes faibles. Ce n'est pas une culpabilité. C'est une réalité. Et l'Esprit de Dieu sympathise à cela. Et il est là, en nous, et il connaît la mesure, et je n'ai pas à culpabiliser pour cela. Mais par contre, je n'ai même pas à le sentir. Je le crois. C'est une réalité parce que c'est écrit et que je le crois. Et si je le crois, il y a la paix, c'est obligatoire. Mais si je n'ai pas la paix, si je me débats, si je suis là comme quelqu'un au pied d'un mur qui s'accroche et qui monte et qui retombe et qui s'accroche et qui monte et qui retombe, je suis désolé, on se trompe. On a oublié que l'Esprit de Dieu était en nous. C'est une réalité, l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, oui ou non? Oui? Alors, l'Esprit lui-même intercède pour nous. Il intercède par des soupirs inexprimables. Il le fait. C'est journalier, c'est à tout moment. Et si à un moment donné, je pense que j'en ai pas besoin, c'est que vraiment, alors là, il y a un problème.
Un verset dans l'Évangile, donc c'est peut-être ce à quoi tu pensais, Élie, je ne sais pas, mais où le Seigneur a soupiré dans l'Évangile selon Marc. Et c'est intéressant parce que c'est un miracle où il redonne la parole à quelqu'un. L'Évangile selon Marc, au chapitre 7, on va lire tout le paragraphe. Marc 7, versets 31 à 37. « Étant de nouveau parti des confins de Tyré de Sidon, il vint vers la mer de Galilée à travers le pays de Décapolis, et on lui amène un sourd qui parlait avec peine, et on le prie pour qu'il lui impose la main. » Et l'ayant tiré à l'écart hors de la foule, il lui mit les doigts dans les oreilles, et ayant craché, il lui toucha la langue, et regardant vers le ciel, il soupira. Et il dit « Ephphata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Et aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, et le lien de sa langue se délia, il parlait distinctement.
Et Jésus leur enjoignit de ne le dire à personne, mais plus il le leur défendait, d'autant plus il le publiait, ils étaient extrêmement étonnés, disant « Il fait toutes choses bien, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Donc le Seigneur, là, je trouve une belle illustration de ce que disait Élie, il soupire et il délivre d'une incapacité de parler. Et c'est ce qu'on a dans le passage qui est devant nous, au verset 26, « Nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. » Je pense que c'est encourageant, ça aussi, cette pensée pour les plus timides parmi nous. C'est toujours les mêmes frères qui parlent là. Moi, je me lève aussi pour oser prendre un micro. Mais il y a plein de frères qui disent rien et qui ont des choses intéressantes à dire. Et sans doute, ils n'osent pas. Ils n'osent pas, ils disent « Mais j'ai pas la parole facile. Comment je vais faire ?» Bon, ils n'osent pas. Et quelque part, quand on veut prier, eh bien, ça ne compte pas d'avoir la parole facile. Peut-être qu'il y en a qui pensent qu'ils ont la parole facile et qu'ils abusent aussi du temps de parole, c'est un autre travers. Mais pour ceux qui seraient les plus timides, eh bien, la valeur, la qualité verbale, la qualité, l'esthétique verbale n'a pas d'intérêt devant Dieu. Une prière bien dite ne vaut pas plus qu'un soupir au fond du cœur. Et le Seigneur comprend quelque chose de non dit, un soupir au fond du cœur, aussi bien qu'une belle phrase bien tournée. Alors, il faut connaître ses limites, comprendre qu'on sache qu'on n'arrive pas bien à formuler quelque chose, ou qu'on soit persuadé d'être un très bon orateur, on est tous dans la même situation, on ne sait pas être pertinent, on ne sait pas comment il convient de demander ce dont on a besoin. Quelquefois, on ne sait même pas exactement ce dont on a besoin. Et dans ces cas-là, il ne faut pas faire de complexe, comme disait Jean-Luc. Le Seigneur est là, il connaît nos limites, et l'Esprit va relayer avec harmonie ses prières, ses besoins, pour que notre Dieu les entende et pour qu'il conduise les choses pour le bien de ceux qu'il aime.
Peut-être une petite remarque sur le texte. Il n'est pas dit « Il est insert pour les saints devant Dieu ». Ce n'est pas notre sacrificateur. Il intercède pour les saints selon Dieu. Et cela aussi, c'est fait pour nous rassurer. Parce que si nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient, peut-être qu'au fond de nous, on se dit « je vais peut-être demander quelque chose qui n'est pas selon Dieu. Peut-être que ma souffrance, là, il y a un problème. » Alors on ne sait pas quoi dire, comment faire, mais lui, il intercède selon Dieu. T'as pas de problème.
Dans la première épître de Jean, au chapitre 5, je lis simplement, c'est pas la peine de chercher, c'est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 11, au chapitre où il est question de Lazare et de la résurrection de Lazare, le Seigneur lève ses yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu, or moi, je savais que tu m'entends toujours. » Nous sommes tous persuadés ici, je pense qu'il n'y a pas la moindre trace de doute, que les interventions qui nous sont rapportées, qui concernent le Seigneur Jésus, sont absolument selon Dieu. Nous sommes tous d'accord, sans la moindre réserve, qu'il y a eu une réponse totale à ces demandes-là. L'Esprit intercède selon Dieu. J'attends la réponse. Tout est selon Dieu, ça va venir. J'attends la réponse. Chacun, je pense, pourra relire ces versets 26 et 27, et dans les moments même de petits doutes, s'imprégner du contenu pour arriver à dire « J'attends la réponse ».